Ce soir, pour commencer cette petite conférence, j'ai fait ça souvent. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont entendu avant à Nice. Je commence toujours avec une petite réflexion sur une expérience que j'ai eue. C'était en 99, avant au Vatican, parce qu'on a parlé d'assises. Ouais, ça, c'était un grand événement dans la vie de l'Église. Et pour commencer, il y a très peu de gens qui savent même que ça existait, mais pour commencer l'année jubilaire de 2000, ça a commencé en fait en octobre 99. Et il y avait environ entre 200 et 250 personnes de toutes les religions du monde et d'une quarantaine de pays qui étaient convoquées à Rome pour une petite mini-colloque de 3 jours où on était censé de rédiger un texte qui serait lu sur la place Saint-Pierre devant le pape Jean-Paul II, en disant ce qui devrait être les relations entre les religions, entre les États, etc. Et cette conférence, cette colloque a eu lieu dans la salle de synode. C'est là où le pape rencontre les cardinaux pour discuter finalement ce que serait la politique de l'Église catholique dans le monde. J'étais très impressionné d'être là, mais je me suis demandé comment on va pouvoir rédiger un texte qui devrait être environ 10 minutes, sur lequel tout le monde devrait être d'accord, et pour le lire ça publiquement devant le monde entier, je me suis dit, c'est pas possible. Mais si c'était possible, chaque religion va attribuer ça à quelque chose dans leur propre cohérence. Moi, je dis, c'est l'Esprit Saint qui a été au travail, je ne sais pas ce que les autres. Mais c'était comme un petit miracle. Mais un miracle qui était bien planifié aussi. Parce qu'à Rome, on sait comment faire ces affaires, on a des années d'expérience. Et tout de suite, on était regroupés dans des petits groupes d'une quinzaine de personnes, bien sûr, selon les affinités linguistiques, culturelles, etc., parce qu'il fallait aller vite. Et chaque groupe était censé de rédiger un texte de même longueur. Ouais, 15 personnes, ça fait une quinzaine de groupes. Et puis chaque groupe allait lire les textes devant le grand groupe. Et puis tout le monde va parler de ce texte pour quelques minutes pour dire ce sur lequel on était d'accord et ce qu'on ne pouvait pas accepter. Mais si ce n'était pas acceptable, c'était écarté. On ne peut pas avoir un accord sur ce qui n'est pas acceptable. Et puis, ce qui est acceptable à tous, c'est presque tous les groupes qui l'ont dit d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'on a fini avec le texte final. Ce qui est important, c'est donc chacun de ces textes des groupes était comme un bateau cible. Et tout le monde tirait dessus, comme on fait avec un bateau cible. Et le premier groupe, il y avait un groupe des personnes qui venaient de Nord, des pays de Nord. Ils ont suggéré que, oui, sur la place Saint-Pierre, nous allons dire que toutes les religions devraient être tolérantes les uns vis-à-vis des autres. Et c'est cette tolérance qui serait le modèle des relations entre les États, entre les religions, entre les individus. Alors, ça a fait grand plaisir aux gens des pays du Nord. Mais il y avait une levée de boucliers, des gens qui viennent d'ailleurs dans le monde. Et déjà, on avait un conflit. Et ils refusaient absolument d'accepter que la tolérance soit le modèle des relations entre les hommes, entre les religions, entre les États. Vous imaginez la discussion. Parce que la tolérance, surtout dans les pays du Nord, c'est la vertu numéro un. Et on ne peut pas se permettre de mettre ça en cause. Ben alors, c'était plus que mis en cause, c'était rejeté. Donc, dans la discussion, évidemment, les gens du Nord demandaient, mais comment est-ce que vous pouvez faire ça? Et les gens du Sud, ils ont dit quelque chose qui m'a frappé. Je le pensais déjà parce que je n'étais pas trop d'accord avec mon tolérance, mais je n'aurais rien dit. Mais eux, ils ont dit, on ne peut pas faire ça parce que là où il y a de tolérance, il y a un groupe qui domine l'autre. Les riches tolèrent les pauvres, les intellectuellement doués tolèrent ceux qui ne le sont pas. Ouais, il y avait toute une liste. Donc il y a une espèce de domination qui est inscrite dans la tolérance. Ça n'était pas assez pour convaincre les gens du Nord, parce que nous sommes bien assis sur nos acquis et sur nos idées de ce que sont les vertus. Donc on a résisté. Et ils ont dit, mais là, ça devient un peu fort. Ils ont dit, le problème avec vous, dans les pays du Nord, c'est que vous êtes toujours en train de tolérer, mais vous n'avez jamais fait l'expérience d'être toléré. Ils ont dit, et nous vous garantissons. Une fois que vous faites l'expérience d'être toléré, vous êtes beaucoup moins pressé à suggérer que ça sera le modèle des relations entre les hommes dans le monde. C'était très percutant ce qu'ils ont dit. Et puis ils ont expliqué, vous faites une phrase avec le verbe tolérer et qu'est-ce que vous avez? C'est je tolère X. Il y a combien d'acteurs dans cela? M seul, c'est moi. je tolère X. X est simplement là. Il n'a pas, X ne joue pas un rôle dans l'action de tolérer. D'où la réaction forte de ces gens. Ils étaient convaincus, ils avaient raison, qu'ils avaient quelque chose de positif à contribuer à ces relations, à ce qui se passe dans le monde. Ils ne voulaient pas simplement être tolérés. Et puis, ils ont suggéré peut-être une compassante, à cela vous pouvez deviner que ça va devenir, serait le dialogue. Et pourquoi? Parce que dans le dialogue, si on fait une phase, on voit tout de suite la différence. C'est je dialogue avec X. Il y a combien d'acteurs? Obligatoirement, il y a deux, il y en a deux. Et ils sont à l'égalité. Et pour le faire, chacun doit être convaincu que l'autre a vraiment quelque chose d'important à lui dire. Parce que si on n'est pas convaincu que l'autre a quelque chose d'important, si je ne suis pas convaincu, maintenant je ne vais pas dialoguer avec lui, je vais le tolérer. Pourquoi est-ce que je vais dialoguer avec quelqu'un qui n'a rien à me dire? Ça n'a pas de sens. Cette conviction que l'autre a quelque chose d'important à me dire, et dans le dialogue interreligieux, ça devient quelque chose d'important sur le mystère qui nous fait vivre tous. Si on n'est pas convaincu de cela, on ne va jamais entrer dans le dialogue. Il n'y a pas de raison pour le dialogue. On va être très tolérant. Et ça, pour moi, c'était une expérience très parlante qui m'a aidé à beaucoup réfléchir sur ce dialogue, sur ce respect qui est derrière le dialogue. On ne dialogue pas parce que ça se fait. On le dialogue parce qu'on a ce respect profond. Et chacun doit fonder ce respect profond lui-même. On va avoir des fondements différents selon la tradition dans laquelle on est. Mais il faut le fonder, sinon c'est un peu artificiel. On ne peut pas simplement dialoguer parce qu'on ne serait pas pris au sérieux si on ne le fait pas. Ce ne serait pas un dialogue, parce que le respect serait manquant. On dialogue parce qu'on sait que l'autre a quelque chose à me dire, et j'ai peut-être quelque chose à lui dire aussi, et on crée le contexte pour le véritable dialogue. Ça, c'est une chose que j'ai appris à cet rassemblement à Rome.